Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Principe Actif et sur HDR. Le pire reste à venir. Le pire, c'est qu'on ait fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées et bénévoles de nos deux antennes. Et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs. Au menu de cette émission du vendredi 7 septembre 2018, et bien nous serons en compagnie des vagabonds de l'énergie, à savoir Clément Bresciani et François Glézo. Ils sont en train d'arriver tranquillement dans les studios, on va les accueillir dans un petit instant. On parlera de leur projet, évidemment, des Vagabonds de l'énergie. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sur nos antennes. Ils reviennent pour la petite histoire, j'allais dire pour la grande histoire. Ils reviennent d'un tour du monde presque complet de 2 ans. Voilà, ils sont partis en Amérique latine, en Asie, en Europe. Enfin voilà, on va prendre le temps de. Ils vous expliqueront ça bien mieux que moi de tout le parcours qu'ils ont eu au cours de ces 2 années. Et puis on parlera notamment environnement, développement durable. Enfin voilà, on va parler de tout un tas de choses. Ils sont en train d'arriver. Voilà, je les ai accueillis avec un petit café pour tout vous avouer et que, voilà, qu'ils soient bien. On fera évidemment un détour du côté de vos messages répondeurs parce qu'il y en avait et on est bien heureux de les diffuser en tout début d'émission. Et puis si on a le temps et on trouvera peut-être un petit peu du temps, on vous parlera de la nouvelle série télévisuelle animée de Matt Groening, l'ami Julien qui officiait voilà, le vendredi la saison dernière. Et bah, il nous a enregistré une petite chronique pour le retour, pour la nouvelle saison. Donc on devrait avoir le temps de le diffuser. Le tout vous sera servi avec de la bonne humeur, du bon son, des bons plans. On vous parlera de ce qui se passe un petit peu ce week-end sur Évreux, Rouen, Verneuil, Breteuil, Conches. Enfin voilà, vous en avez l'habitude. On s'ambiance avec un premier titre, le rappeur congolais Balodji. Le morceau s'appelle L'hiver indien. Merci d'être à l'écoute de Principe Actif et d'HDR.
Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez. Les éclairs, ce sont des fissures dans un plafond goudronné. Encaisser le choc thermique, échange d'amabilité. Au fond de la glace, moi c'est Emery Bouyamba. Enchanté, mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur. Dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Accroché à son radiateur. Paris et sa couronne. Paris, chambre de bonne. Boulevard large comme le fleuve. Peu de champs de manœuvre. En classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat. Les papiers, c'est le Graal. Bénonville à la verticale. Les assorts évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre. Bilan polyester, freeze. Bousculade pour des places assises, taxi brousse moderne, 8 mois que l'on hiberne.
Oh, hiver indien, exilé intérieur accroché à son radiateur. Accroché son radiateur.
Socon, c'est la mire. On neige en plein délire. Des flocons, flocons, flocons. Pas de linge au balcon. Soleil pâle, couleur néon. Mimétisme, t'as un caméléon. Ici, c'est l'empire du môle. Des villes souterraines. Du métro à ma piole. Telle une bouillotte humaine. Les démarches tuent ma patience. Assigné à résidence. Entre isolement et repli. Déserteur, vu du pays. Pour une bourse étude, brevet d'aptitude, tu sais l'attitude, trop de lassitude et d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures se télescopent, pas le Kalonji chez les Diop. Les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte.
Accroché à son radiateur.
Au de lotissement, au de département, à l'éloignement, à l'isolement.
Oh, 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 l'hiver indien.
Dedans, 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 dedans.
Dedans,
dedans, dedans, dedans.
Yala waudo.
Dedans, 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 dedans. Dédan, 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 dédan. On se croit à Djibouti, pilo sur piloti. Débrouillard sans outils, qui remplace Pouli. Par des ascenseurs vivants, gilets jaunes, fluorescents. Où les rabatteurs d'épicerie proposent microcrédit. Antivol pour les poussettes, cigarettes, gilettes, barrettes. On fait disparaître le délit. Sous les mèches dark and lovely, vampirisé sous les Carpates. Pas un réfugié mais un expat.
Oh, oh, oh,
au lotissement,
au de
département, à l'éloignement, à l'isolement.
Oh, 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 yala waudo.
À chaque entretien d'embûche, on me dit avec des grandes paluches. Y'a des jobs vacants dans les villages, dans les chaînes d'assemblage. Des mains faites pour l'or, ou pour l'huile de friture. Ghetto Mirador, centre de villégiature. Depuis que l'heure du culte est l'heure de téléfoot. Charme plus dimanche, gala de plus étanche. Les nuits d'été le gel entre giboulé et grêle. C'est fait plus chaud à l'extérieur, c'est que DF a coupé le compteur. La fin de la trêve hivernale, c'est notre germinal. Changement de décor, dépression sans les assorts. Dans ce delta urbain, hiver indien sans fin.
Oh, 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 yala waudo.
Voilà le rappeur Balodji.
Volet d'outre-mer.
Oui, c'est lui. L'hiver indien, Ghetto Mirador. Il était passé en concert il y a quelque temps du côté du Havre, si je ne m'abuse.
Ouais, salut la matinale.
Hi, pour la CIP Active.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah, la like a mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 95.9 dans le sud du département de l'Eure et 99.1 évidemment du côté de Rouen. On écoute vos messages répondeurs.
Oui, bonsoir. C'est Ginette du groupe Boom, Ginette Wallmanche. Voilà, c'est pour vous dire que on va faire un petit gig gentillet à Pizarroque la semaine prochaine. C'est le samedi qui suit, c'est-à-dire que là on est déjà samedi, enfin peut-être ouais pas encore dimanche, donc on est samedi, c'est le samedi d'avant en fait. Donc c'est le samedi d'après dans lequel on joue. Le samedi, enfin voilà, premier, voilà, c'est maintenant. Et du coup, c'était juste pour que vous l'annonciez. Voilà. Bon bah je vous dis des bisous et puis je vous passe quelqu'un.
Bah moi, franchement, je suis ultra fan du groupe depuis sa première heure qui a commencé hier soir. Boom, c'est un groupe qui a marqué mes esprits, mes tripes, mes orteils, qui m'a remué à l'intérieur, mais comme jamais.
Et mal, Johnny.
Et donc, on les loue pas à Pizarroque, à la bonne ville. Samedi, il y a Boom, et Boom, quand ça joue Boom dans ta tête, quoi. Voilà.
Voilà, merci pour vos messages répondeurs. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos réactions, vos infos, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos remarques, des annonces, tout simplement nous laisser de vos nouvelles, ça fait toujours plaisir. Et pour ce faire, ça se passe au 02 32 62 57 32, je le répète, 02 32 62 57 32. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous saisir, à vous emparer de cette zone d'expression radiophonique qui est aussi la vôtre. J'accueille mes invités. On est donc avec les Vagabonds de l'énergie, Clément Bresciani, François Glaiseau. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes levés de bon matin pour être avec moi et ça fait bien plaisir. On va tout de suite lever le. Enfin voilà. Je vais essayer de vous voyez, mais on se connaît dans la vie. Donc voilà, le tu pourrait éventuellement revenir au cours de cet échange. N'en soyez pas surpris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on se remettra un petit peu de musique. Je vous annonçais là dans la petite intro, vous revenez d'un tour du monde ou presque du monde complet. En tout cas, voilà, il y a eu quand même pas mal d'étapes de 2 ans. Vous êtes revenu quand ?
Début mai.
Début
mai. Ça fait 4 mois.
Ça fait quelques mois. Alors voilà, tu vois Clément, ça y est, le tutoiement.
Ouais, ça.
Ouais, t'as le. On va te mettre sur l'autre micro si ça t'embête pas. Désolé. Voilà, une petite pirouette.
Du coup, pendant le temps d'attente.
Ouais.
On a fait un tour du monde.
Alors bien dans le micro, vas-y.
Donc on a bien fait un tour du monde, mais c'est vrai qu'il y en a des milliers de façons de faire des tours du monde. Et du coup, nous, c'était un tour du monde. On n'est pas allé dans tous les continents, on a juste fait le tour du globe. Et
C'était important, ça. Dès le départ, il y avait cette idée-là de faire un tour complet de la Terre.
Ouais, l'idée, c'est justement c'est d'aller bouger, mais dans l'esprit, un jour revenir. Mm-hmm. Et puis ancrer ce qu'on a appris.
J'imagine que dans la préparation de ce voyage-là, vous aviez déjà repéré un certain nombre d'étapes. Vous aviez peut-être ciblé tel endroit. Alors, on va revenir dans quelques instants sur la genèse du projet, le projet de base. Mais vous aviez peut-être repéré certaines initiatives dans les pays où vous êtes allé. Tel endroit, ils ont tel projet qui correspond à nos valeurs. Ou même si ça correspond pas forcément, en tout cas, on va aller voir pour voir ce que ça dit sur place. J'imagine qu'il y avait un peu l'itinéraire un peu balisé et en même temps, à l'inverse, des zones d'ombre où vous saviez pas où vous alliez foutre les pieds, quoi.
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on a... On a bien fait une petite recherche pour avoir des exemples de ce qu'on voulait trouver, mais on ne les a pas du tout suivis, en fait. C'est-à-dire... Ouais, je sens que ça craque là-dedans.
Ça va être ton casque.
Ouais, c'est pas grave.
Oh là là.
C'est-à-dire que pour monter nos dossiers, pour présenter notre projet, il fallait effectivement qu'on puisse montrer quel genre d'exemples on voulait aller chercher. Mais on voulait aussi être complètement libre dans l'itinéraire. Ce qui fait que je crois que sur les 5-6 trucs qu'on avait repérés avant, on n'est pas allé en voir un seul finalement. Mmh. Parce que notre projet ne demande pas forcément à trouver des choses très précises, très minutieuses. Il y a des projets intéressants partout. Et du coup, on avait cette liberté-là de pouvoir arriver dans un pays, faire une recherche, trouver quelque chose qui nous intéresse, y aller, rencontrer les gens sur place. Et dans tous les pays, il y a des choses intéressantes.
Alors, on parle avec vous de projet. Là, on commençait un peu à... C'est ma faute, hein, on est rentré direct dans le vif du sujet. On parle de projets environnementaux, écologiques, ou aussi, et on reviendra peut-être sur cet aspect-là, l'aspect humain, justement, est un peu au cœur de la chose. Mais avant de parler des projets des autres, entre guillemets, ce serait peut-être bien de planter le décor en parlant de votre projet à vous. C'est parti, il y a déjà un paquet de temps. Il y avait deux personnes avant vous, vos prédécesseurs. J'imagine que ça a commencé avec eux, ou enfin, voilà, comment ça s'est lancé un peu le projet Vagabond de l'énergie. Pour les citer, j'ai les noms, hein, j'ai retrouvé sur votre site internet.
Il a travaillé, c'est bien.
Arnaud Créteau et Robin Deloff, je pense qu'on dit comme ça.
Ouais.
Qui eux aussi étaient déjà partis un peu autour du monde. Vous avez pris leur suite quelques années, quelques mois après. Quel est un peu le projet Vagabond de l'énergie ? C'est quoi l'idée ? C'est de recenser différents projets, différentes initiatives de sociologie de l'énergie, ou en tout cas de projets. Ouais, je mélange tout. François, vas-y, reprends-moi, François.
Du coup, en effet, en 2009 jusqu'en 2010, Arnaud et Robin sont partis faire un voyage pour aller rencontrer des moyens de produire de l'énergie. Donc c'était une étude d'ingénieur, ils étaient en école d'ingénieur à ce moment-là, et ils sont partis vraiment sur de la technique. Et en fait, au fur et à mesure de leur voyage, donc il y a eu des rencontres inattendues, des surprises, il y a eu notamment Fukushima qui les a empêchés de finir leur voyage. Et dans leur voyage, du coup, en fait, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que l'énergie n'était pas une question de technique, c'était une question de culture humaine. Et par cette compréhension et par cette nouvelle problématique qu'ils ont apportée sur la table en disant finalement on s'en fout de savoir qu'est-ce qui est le plus performant entre une éolienne et un panneau photovoltaïque ou n'importe quoi. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que les gens acceptent, qu'est-ce que les gens vont s'approprier. Et c'est avec cette introduction, cette problématique que nous, Vagabond Énergie 2, on est parti, du coup, cette année, enfin, quelques années plus tard.
C'est ça, si je reprends, ces deux prédécesseurs-là ont posé un peu la problématique de votre prochain voyage, enfin, du voyage que vous avez effectué là et de vos recherches. C'est bien ça, François? C'est bon, j'ai bien rattrapé le wagon. Alors, oui, on en parlait, la sociologie de l'énergie qui est au cœur de votre projet, de ce projet-là. On va tâcher de la définir un petit peu, même si tu l'as déjà abordé, c'est quelque part ce que font les humains de leurs moyens de production d'énergie, c'est ça? Ou en tout cas, et une étude comparative selon les cultures, les endroits du monde où on est, voilà, quelle énergie on utilise, ouais. Et comment on l'utilise et à quelle fin, et en l'occurrence tu parlais d'acceptation, parce que les groupes humains sont capables d'accepter, qu'est-ce qu'on entend par là?
C'est vraiment la relation de l'individu par rapport à l'énergie, déjà sa conception toute basique, et puis après tous les moyens qu'il va mettre en place pour la produire, pour la gérer avec un collectif. Si elle est produite au niveau local, c'est extrêmement intéressant, puisque là, en fait, la sociologie, du coup, s'applique à tous les domaines. Et dans l'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas tellement étudié. Donc, du coup, c'était très intéressant de s'intéresser justement à comment donner les moyens pour les citoyens n'importe où de produire leur propre énergie, mais au niveau humain, entre eux. De trouver des... Donc, sur notre voyage, et même en France, on a vu plusieurs projets où on s'est intéressé à... Voilà, comprendre les mécanismes d'organisation entre les individus autour d'un projet énergétique.
On entend, justement, et je voulais qu'on revienne dessus, sur la préoccupation et votre préoccupation d'avoir justement l'humain au centre. C'est-à-dire qu'on parle de projets écologiques, de développement durable. Enfin, il y a toutes ces questions-là qui vous animent, et pas seulement au travers de ce projet-là, mais d'un point de vue aussi militant. Voilà, ça fait partie de ce que vous êtes, même au-delà de militant, en tant qu'être humain. Ces questions-là vous préoccupent, vous interpellent. On sait qu'on est dans une urgence, j'allais dire une forme d'urgence climatique, enfin sur ces préoccupations-là, je crois que le mot forme est superflu, on est dans une urgence, j'imagine que vous ne me démentirez pas, et en même temps, on sent aussi que la nécessité, et ça rejoint ce qu'on était en train de se dire, de mettre l'humain au cœur de tout ça, c'est-à-dire qu'on aurait tendance peut-être, ou en tout cas il y aurait certaines tendances, à se dire que c'est grâce à la technologie qu'on va pouvoir réduire notre impact, soit individuel, soit collectif, sur l'environnement. Voilà, on va imaginer des centrales nucléaires non polluantes, des voitures de moins en moins polluantes, etc. Sauf qu'en fait, si les êtres humains ne sont pas intégrés dès le départ dans ces processus-là, et puis justement dans cette fuite en avant technologique, il y a peut-être aussi à revenir sur des choses peut-être plus fondamentales. Enfin, voilà, je m'égare un peu, et encore une fois, c'est pas une question vraiment. Mais en tout cas, je sais que dans votre projet, dans votre réflexion, c'est important aussi de considérer les choses à l'échelle humaine. Voilà, c'est peut-être pas une question, mais.
Attends, du coup, c'était un pas
plus. Vas-y.
Moi, il y a un truc qui est très important, c'est qu'en fait, là, dans tout ce qu'on propose aujourd'hui, on attend énormément du gouvernement. Il faut vraiment arrêter d'attendre du gouvernement. Le gouvernement n'est absolument pas capable de produire des solutions pour l'environnement. On est 60 millions en France ou 70. Le gouvernement n'est absolument pas capable de gérer même une centrale nucléaire. Donc il ne faut pas attendre du gouvernement. Il faut que la transition se fasse du bas du modèle de société de tous les citoyens. Il faut que ce soit un engagement personnel, une évolution de chaque instant dans notre vie de citoyen, de militant ou d'écologiste, n'importe quoi. Mais le gouvernement n'a jamais apporté la solution. Il faut que la solution vienne du citoyen qui se propose avec une association de créer son petit système de production énergétique locale au niveau de 3-4 communes. Et voilà, c'est que comme ça qu'on peut s'en sortir. Le top-down ne marchera jamais.
C'est ça un des enjeux, là, tout de suite, maintenant, de pouvoir... tu viens de parler de création de mode énergétique d'un point de vue local sur des petites quantités pour des groupes d'humains réduits, on va dire, et puis que chacun fasse un petit peu... Alors, on parle pas de mini-champignons atomiques dans chacune des villes, hein, c'est pas forcément ça l'idée, mais en même temps, il y a cette idée-là de se dire, l'autonomie... quelque part presque une autarcie énergétique. Je ne sais pas si on parle de ça dans vos vocabulaires, votre vocable habituel. Clément, tu voulais réagir sur ça ou sur autre chose d'ailleurs.
Non, mais oui, c'est l'autonomie énergétique effectivement, mais pas individuelle parce qu'on est là écologiquement sur quelque chose qui est pas complètement viable. Non, je voulais rebondir sur le sujet de la technologie et du coup rebondir en même temps sur l'actualité parce que donc Hulot l'a dénoncé et il a complètement raison. Les lobbies ont plus de pouvoir que les politiques, donc les politiques sont coincées. Donc les lobbies, c'est qui? C'est les industriels. Donc si on veut changer quelque chose, on a tout intérêt à arrêter de donner notre argent aux industriels, ou en tout cas de choisir à quel industriel on donne notre argent. Donc d'un point de vue technologique, on a déjà un pouvoir qui est immense à ce moment-là, qui est peut-être plus fort que le vote même, qui est notre choix de consommation.
C'est important de le rappeler, et en même temps, pour faire un parallèle entre ce que dénonçait, je reprends tes mots, ce que dénonçait Hulot, notre ancien ministre de la transition écologique, c'est comme ça qu'on
tout
dit.
Tout à fait, je crois. Ouais.
voilà, le fait que notamment un ministre de l'environnement comme lui, mais globalement un gouvernement, soit coincé par les lobbies, enfin d'un certain point de vue, est-ce que à l'échelle individuelle, il n'y a pas cette même problématique? C'est-à-dire que on est nous-mêmes coincés, par exemple, dans le cadre professionnel ou familial, etc. On a tous besoin d'une automobile. Enfin, tout est fait pour l'automobile, c'est-à-dire que depuis 50-60 ans, globalement, on a tout fait pour l'automobile. Et c'était évidemment, encore une fois, une question de lobby, puisque les pétroliers, voilà, on va pas citer les noms, mais on très vite compris le truc, même il y a plus de 60 ans, que de pouvoir vendre du pétrole aux individus, enfin, de façon individuelle, et que ce soit pas juste à une élite qui aurait un véhicule super moderne. Aujourd'hui, ça paraît complètement fou, parce que à la base, les automobiles, c'était un truc, voilà, pour la bourgeoisie, pour ceux qui avaient les moyens de s'acheter une voiture. Aujourd'hui, c'est répandu, même dans les pays les plus pauvres au monde, les gens ont des voitures. Alors, pas à la même échelle, nous, on en a deux en moyenne, les Américains en ont 3 plus 4-4-4, enfin j'exagère à peine, mais voilà, revenir sur ce truc-là où on est aussi nous-mêmes un peu bloqués. Alors après, on a notre libre arbitre qui nous permet peut-être de choisir un autre mode de déplacement par exemple.
Mais on voit bien le changement en fait, il a suffi que 2-3% de population dans les villes commence à prendre le vélo pour que tout de suite fleurissent des pistes cyclables. Enfin, la ville est designée pour la vie et la voiture, et c'est un vrai problème. Mais du coup, enfin, il suffit qu'une toute petite minorité agisse, et de manière constante, régulière, s'investisse, pour que tout de suite, il y ait un changement. Donc vraiment, moi, je vois des pistes cyclables partout en ville, et j'en suis content, enfin, partout, que ce soit Rouen, Évreux, Caen, Le Havre.
Ça paraît en effet indispensable, et on l'a déjà dit, mais insister là-dessus, voilà, c'est à chacun individuellement de revoir aussi ses pratiques, de s'interroger. Clément, tu disais notamment, voilà, c'est peut-être plus fort que le vote, quelque part, dans les choix de société qui s'offrent à nous, de se dire que voilà, notre pouvoir d'achat, notre pouvoir de consommateur, nous rend acteurs aussi si on en prend conscience et qu'on oriente ces choix-là dans telle ou telle direction.
Oui, et il n'y a pas forcément de solution. Enfin, justement, ce qu'on défend, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. La solution, elle est locale, elle est choisie avec les gens d'un territoire. Et donc, pour continuer sur l'exemple de la voiture, on ne va pas bannir la voiture du jour au lendemain. Effectivement, quand on est à la campagne, on a besoin d'une voiture. Ça va être très compliqué de faire autrement, même à l'avenir. Par contre, dans les villes, on n'en a pas besoin. Donc, le message qu'on nous porte par rapport à ça et toutes les autres discussions qui peuvent s'y comparer, c'est de trouver des solutions locales par rapport à... au territoire, par rapport aux pratiques. Et donc, pour trouver les solutions les plus adaptées, le mieux, c'est de demander aux gens et d'y réfléchir tous ensemble. Plutôt que d'essayer de décider quelque chose de tout en haut et de l'appliquer partout pareil, ce serait que chacun prenne ses propres décisions, mais de manière collective, pour qu'il y ait un espace commun qui soit co-géré et qui aille dans le sens d'une transition intelligente.
Vaste projet.
Ouais, voilà.
Ambitieux. On va s'accorder une petite pause musicale, puis après on revient concrètement sur voilà, votre voyage. Vous disiez que vous reveniez de ce tour de monde de 2 ans au mois de mai, c'est ça, j'ai bien noté. C'est encore tout frais, j'imagine, les souvenirs. Voilà, il y en a pas mal et pas mal de choses à raconter. On revient juste après, on repart en musique. On va écouter voilà, un remix d'Acide Arabe de Mutado Pintado, Swan Virgins. Le morceau s'appelle Michel.
Thank you.
Voilà, on vient d'écouter Mutado Pintado qui présente Swarm Virgins. Le morceau s'appelle Michel, c'était un remix d'Acide Arabe.
Le pire reste à venir tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Le pire reste à venir.
Et c'est bien nous, nous sommes toujours en compagnie de Clément et François, les vagabonds de l'énergie. On parle de problématiques environnementales à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle mondiale, pour notamment vous parler de leur tour du monde, voyage d'études. Hein, c'était pas que des vacances, quoi. Même si je pense qu'il y a eu quand même une petite notion de plaisir à un moment. Hein, on va pas se mentir, mais c'était avant tout un voyage d'études. Très rapidement, parce que j'aimerais bien qu'on parle, que vous parliez chacun d'un projet concret. On se l'est dit un peu hors antenne pour essayer de faire un parallèle. On parlera de projets de barrages que vous avez rencontrés autour de barrages hydroélectriques. Je précise que vous avez chacun rencontré au cours de ce voyage. Mais avant ça, pour peut-être donner un petit peu envie à nos auditrices, à nos auditeurs, pas pour les dégoûter, on n'est pas comme ça, nous. Mais surtout parce que c'est quand même intéressant. Vous êtes allé où? Et comment aussi? Parce qu'il y avait cette question-là, des moyens de déplacement, qui était au cœur du projet. Alors, ça, c'est parti quand, pour aller où? Et puis voilà, et comment?
Alors, on est parti en novembre 2016 des Sables d'Olonne et on est parti en voilier traverser l'Atlantique à la voile. Où on voulait faire un tour du monde sans avion. On a presque réussi. On a 90% de nos 70 000 km qui ont été faits sans avion. Il y en a même eu deux. Enfin bon, bref. Oui, c'est politiquement par des frontières fermées qu'on a été contraint de prendre l'avion parce qu'on avait choisi cet itinéraire-là aussi. Enfin bon, bref. Mais
deux petites choses rigolotes du coup. Ouais. Clément n'avait jamais fait de voile avant. Il est monté sur un bateau pour traverser l'Atlantique alors qu'il n'avait jamais fait de voile. Donc c'est à la portée de tout le monde. Il y a aucun souci.
Tu devais appréhender quand même un peu, non? Non, pas du tout.
Un petit peu quand même. Un petit peu. Sur le mal de mer surtout. Mais...
Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais, du coup, Sables d'Olonne, en voilier, ça commence comme ça.
En voilier, on a été aux Antilles, surtout dans la mer des Caraïbes, visiter plusieurs pays, donc notamment Porto Rico, Haïti, Cuba. Ensuite, on a rejoint l'Amérique centrale, qu'on a traversé du Guatemala jusqu'en Colombie, donc en passant par le Costa Rica, le Panama. Et ensuite, de Colombie, on a été au Japon, on a traversé le Pacifique en cargo. Pour arriver au Japon, y passer 2 semaines, ensuite aller en Corée, et puis ensuite rejoindre l'Asie du Sud-Est par la Chine. Et c'est là qu'on a été un peu coincé. Hein. François, là, on n'était pas ensemble à ce moment-là. François était en Birmanie, essayait de passer la frontière avec l'Inde au nord. Moi, j'étais en Thaïlande en train de chercher un bateau, un voilier pour traverser, et puis on se tenait au courant pour savoir qui allait rejoindre l'autre en fonction de qui trouverait à passer, et personne n'a trouvé, donc on a pris un avion pour sauter.
C'est là où il y avait des histoires de vous sous-entendiez que d'un point de vue frontalier, c'était compliqué. Ouais. C'était quoi? C'est des questions de
tensions
entre pays, c'est ça?
Ouais. Par exemple, là-bas, il y a les Rohingyas dont on a beaucoup parlé, oui. Il y a l'énorme catastrophe humanitaire du Bangladesh. Et l'Inde et le Myanmar essaient toujours de se rabibocher, on va dire. Ça serait un carrefour commercial phénoménal. Enfin, je veux dire, toute cette partie-là du monde est coupée par l'Himalaya au-dessus et par cette petite frontière Inde-Myanmar-Bangladesh. Et si jamais ça s'ouvrait, ce serait une autoroute.
Et là concrètement, parce que moi, pour le coup, et peut-être que nos auditrices et auditeurs ne connaissent pas, mais très rapidement, parce qu'on ne va pas avoir le temps de s'étaler, mais là, il y a des tensions politiques entre les trois pays qui font qu'il y a un verrou au niveau de la frontière, c'est ça?
Ouais, principalement une héréditaire de la colonisation anglaise. Les Anglais étaient très forts pour mieux gouverner, diviser les peuples chez qui ils étaient en colonisation.
Ils ont animé les
tensions.
Entre différentes ethnies, et du coup c'est resté malgré la décolonisation, c'est ça.
Ils ont importé du Bangladesh pas mal de musulmans, notamment au Myanmar, qui est un pays bouddhiste, et après du coup tout simplement en jouant sur les différences, ils arrivaient à comprendre.
C'est exactement ce qui se passe avec les Rohingyas.
Aujourd'hui, c'est le problème. Ouais. Il y a beaucoup trop de Rohingyas, ils ne sont pas reconnus par le gouvernement. Et puis surtout, ils sont sur un endroit qui est beaucoup trop riche en pétrole, en matériaux précieux, or, cuivre, zinc, uranium. Même. Donc il faut absolument les virer pour exploiter.
Je fais un petit crochet militant, mais cette problématique-là, on la retrouve notamment en Afrique, enfin dans plein de pays du monde. C'est-à-dire que les colonisateurs et les blancs ont animé des tensions, occupé des territoires, ont établi des frontières qui n'étaient pas forcément celles des peuples, se sont retirés, mais on maintiennent quand même évidemment des enjeux économiques et ont intérêt à maintenir les tensions et voire l'instabilité dans les pays. Je pense par exemple à la Somalie, au Congo, etc. Et pendant ce temps-là, beaucoup de gens font énormément d'argent sur les ressources naturelles.
La France-Afrique.
Voilà, entre autres, mais tous les pays d'Europe, vous parliez des Anglais, enfin voilà. Ouais. On digresse, mais voilà, c'est quand même important de...
Non, mais ça fait partie de la transition mondiale. Il faut qu'on boycotte ces entreprises qui amènent ces solutions. Notre indépendance énergétique, qui n'est pas du tout le cas en France, hein. Quand on dit on est au nucléaire indépendant énergétiquement, c'est faux.
Qu'on a besoin notamment de minerais...
uranium, par exemple. Et je veux dire, donc, plus on utilise d'énergie, plus on crée de tensions internationales vis-à-vis d'une dépendance qu'on a. Donc il faut absolument qu'on mette un bon dictateur en place qui nous file les ressources énergétiques, que ce soit fossiles, enfin ce qu'on veut, pour que nous, on ait notre confort. Qu'on ait notre chauffage à 22 degrés dans la maison ou 21.
C'est assez désespérant, mais nous sommes là justement ce matin avec vous.
Le pire reste à venir.
Tout à fait. On a été interrompu. Alors du coup, ça terminait par cette partie-là du monde. Vous êtes rejoint en Chine, c'était ça l'idée ?
On s'est séparés en arrivant en Chine. Mais... Ouais. Donc oui, il y a eu une... sur la deuxième partie du voyage, on n'a pas toujours été ensemble. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'on n'a pas fait beaucoup de vagabonds quand on n'était pas ensemble, mais quand même, on a été chacun visiter un projet. Et donc moi, c'était en Chine, le barrage des Trois Gorges. Et François, c'était en Turquie, un autre barrage aussi, qui ont chacun leurs problématiques.
Eh ben, vous voulez en parler maintenant ? On fait ça. Alors, moi je retiens, je lance un peu, puis vous me corrigez quand j'ai une bêtise.
Ouais.
J'ai notamment lu, alors évidemment, il y a un certain nombre des projets et des choses que vous avez étudiées, que vous avez découvert sur les différents pays, qu'on peut évidemment retrouver sur votre site internet. C'est là où j'ai eu des éléments sur le barrage dont on va parler avec toi, François, dans un instant, en Turquie. Et puis, il y a notamment ce petit reportage vidéo que toi, t'as fait, Clément, sur le barrage des Trois Gorges, un barrage énorme. Je sais pas si c'est le plus grand du monde, non, il y a plus grand encore.
C'est le plus puissant du monde.
C'est le plus puissant.
C'est pas le plus grand en termes de taille, malgré qu'il fasse quand même 1 km de large. Donc c'est déjà assez balèze.
C'est du gros.
D'un côté, t'as du mal à voir l'autre côté.
C'est du gros barrage. Donc en Chine, le barrage des Trois Gorges. Alors, particularité de chacun des deux barrages. Donc il y en a un en Chine, un avec toi Clément et toi François, un en Turquie. Les deux avec des problématiques et des enjeux différents. On va dire des enjeux plutôt intérieurs pour la Chine. Et des enjeux intérieurs, mais aussi extérieurs, je parle de politique et de géopolitique, en Turquie. En Turquie, pour faire court, et puis tu iras un peu plus loin, François, il y a le fait que ce soit sur en territoire kurde, et donc que ce soit un moyen de pression sur la minorité kurde en Turquie, et puis un moyen de pression aussi extérieur, puisque c'est sur le Tigre, sur le fleuve Tigre, qu'a été construit ce barrage, et en aval. Il y a du monde et il y a des pays puissants ou des pays moins puissants mais qui sont je pense notamment la Syrie, si je dis pas de bêtises, voilà, ça coule en Syrie, qui sont instables en ce moment, c'est un euphémisme de le dire, mais il y a l'Iran et la Syrie donc qui sont impactés très directement, et donc en gros on a coupé les vannes. Je résume et vous me corrigez quand j'ai une connerie, hein, c'était l'Irak. Merci de me je suis tellement bon en géographie que je me trompe. Et puis, juste pour lancer sur celui en Chine, je crois que c'est, tu dis dans ton reportage, c'est plus d'un million de personnes qui ont été déplacées, puisqu'on a inondé. À chaque fois qu'on construit un barrage, de toute façon, le bassin inonde toute une partie de la vallée. Mais là, il y avait énormément de gens. Et évidemment, comme dans d'autres cas, ces gens-là, qui étaient plutôt des villageois à vivre, notamment, j'imagine, du transport maritime ou de la pêche sur le fleuve, ont été déplacés, donc passés d'une vie de simples villageois à dans des grands ensembles. Type banlieue, des gros immeubles, etc. Enfin, c'est quand même un changement de mode de vie radical, quoi. Ouais. Voilà, je ne sais pas par lequel des deux on commence. Clément, peut-être, les Trois Gorges en Chine.
Et ouais, juste pour que les auditeurs puissent se faire une idée, en général, on a un lac qui crée un barrage, et donc c'est une zone relativement petite. Ce qui se passe pour le barrage des Trois Gorges, c'est que le lac, c'est en fait une rivière qui est devenue un lac. C'est-à-dire que le bassin a pris de la hauteur, je ne sais plus combien de mètres, je crois que c'était une dizaine de mètres ou vingtaine de mètres, mais sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc, il y a un certain nombre de villes qui étaient portuaires, avec des agriculteurs, des pêcheurs, comme tu dis, différentes activités qui étaient liées directement ou indirectement au fleuve. Ces villes-là qui ont été complètement rasées, donc ils se sont retrouvés sous l'eau. Et donc, ça a représenté plus d'un million trois d'habitants qui ont dû être déplacés. Et donc, la Chine faisant ça de manière assez large, c'est-à-dire que ça représente tellement de personnes qu'il y a eu très très peu de soutien social. Et donc, les familles n'ont pas été dédommagées, ou alors très peu, ont été très mal relogées. Les agriculteurs qui profitaient des rives du fleuve qui étaient fertiles se retrouvent avec des terres sur lesquelles ils ne peuvent plus cultiver. Donc, avec un impact social énorme, mais qui, à l'échelle de la Chine, où il y a 1,3 milliard d'habitants, ça représente finalement assez peu. C'est-à-dire que même s'il y a eu un mécontentement et même s'il y a une réaction citoyenne, qui est mesurée, parce qu'en Chine, quand même, c'est assez dur de manifester, il y a une grosse répression, malgré qu'il y a eu ce mécontentement-là, ça s'est très vite étouffé, et donc le barrage s'est construit sans trop de problèmes.
Les autres Chinois n'ont pas forcément été solidaires, sans leur jeter la pierre, hein, mais
parce non,
que
non,
ce soit pas facile, notamment pour toutes les questions historiques de répression lors des manifestations, mais voilà, il n'y a pas forcément eu d'élan de solidarité de d'autres populations extérieures à ceux qui étaient concernés, quoi.
Et même parmi les concernés, alors c'est difficile d'avoir des témoignages sincères, mais parce que je suis un occidental et que je suis passé juste quelques jours là-bas. Mais les personnes que j'ai interrogées sur le sujet, la plupart, même la quasi-totalité, m'évoquaient le fait que le barrage est important pour le bien du pays, parce qu'on a besoin d'électricité, et que du coup, c'est pour le bien de la patrie qu'une partie de la population se sacrifie.
Ça rejoint un petit peu ce qu'on a déjà soulevé sur l'acceptation de la population. Quand on arrive quand les puissants arrivent à faire croire que voilà, c'est pour le bien-être de l'intégralité de la nation, du pays, que vous allez souffrir, parce que concrètement c'est ça, on vous change radicalement de vie, on vous déplace, on ne vous demande pas votre avis, c'est une spoliation. Quand on arrive à faire croire ça aux gens, évidemment ça, on accepte mieux, quoi. Enfin, c'est, évidemment, j'imagine que ça marche exactement pareil pour nous ici en France. Oui, encore une fois, il n'y a pas de question.
Mais malgré que la Chine ait réussi à installer un système politique tellement fort, basé sur la confiance, les Chinois ont une confiance aveugle ouais, envers leur gouvernement. Donc le gouvernement a vraiment fait ce qu'il veut, quoi.
François,
ouais.
Ce barrage en Turquie, on l'a présenté un petit peu.
Tout à fait fortuitement que je l'ai découvert. En fait, je faisais du stop et c'est une famille kurde qui m'a ramassé et qui m'a emmené à Batman, qui est une ville ouvrière juste à côté du fameux barrage. Et du coup, j'ai été là-bas 2-3 jours, le temps de comprendre un peu les enjeux de ce barrage. Mais surtout, on est dans un contexte extrêmement difficile. Le journalisme international n'existe pas. Les journalistes locaux sont totalement muselés et beaucoup se font arrêter. Donc il y a un contrôle total d'Erdogan sur la presse. Voilà, et beaucoup d'Occidentaux, un peu comme moi, sont arrivés là-bas et sont commencés à se prendre en photo, à faire des trucs, et ont été remarqués, arrêtés. Donc c'est dans un contexte un peu particulier que je suis arrivé sur ce barrage. Et d'ailleurs, c'est... Bon, bref. Et du coup, en fait, ce barrage, le gros problème qu'il soulève, c'est qu'il y a là-bas, c'est le berceau de l'humanité, hein. Enfin, pardon, pas de l'humanité, mais de la civilisation. Donc c'est le Tigre et l'Euphrate.
C'est les premières villes, les premières fois où les hommes se sont sédentarisés.
C'est exactement ce que je voulais dire, merci.
Le croissant fertile, ouais. Pour ceux qui se rappellent leur cours de géo.
Mais c'est on n'a pas le temps, mais c'est essentiel en fait.
Mais oui, c'est ça. Et là-bas, il y a des habitats troglodytes qui remontent à 12 000 ans. Il y a des châteaux magnifiques, il y a des mosquées du 4e siècle. Enfin, je n'ai pas les dates exactes, mais c'est sur l'article. Et il y a l'UNESCO qui a représenté 9. Donc, par exemple, voilà, j'arrive. Il y a le village d'Asenkef. C'est un village extraordinaire, magnifique, taillé dans la roche, au flanc de falaise, avec le tigre qui passe juste au bas. Enfin, t'es juste dans
une
un conte de fées, quoi.
Vision idyllique, ouais.
C'est ça, et t'as trop envie d'y rester. Bon, après, c'est devenu très touristique. Donc, du coup, voilà, une petite contrepartie pas très, très sympa. Mais dès que tu fais 500 mètres de plus que les touristes, tu te retrouves dans le magnifique, quoi. Et du coup, le projet du barrage qui est fait en aval va inonder cette vallée-là complètement. Et du coup, tout le village qui est magnifique et millénaire, hein, quelque part, pas les maisons, mais le village, se retrouve déplacé dans des nouveaux pavillons en béton. Il va falloir mettre de la climatisation, il va falloir mettre des systèmes de chauffage parce qu'il n'y a aucune isolation. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas du tout ces concepts-là encore. Et surtout, il y a un patrimoine culturel phénoménal kurde, cette fois, donc, en tout cas, c'est eux les détenteurs de cette passation, et qui va se faire complètement écraser. Et c'est un peu une sorte d'humiliation faite au peuple turc. Enfin, kurdes. Et ce qui est dommage, c'est que principalement, eux, les Kurdes, enfin, là-bas, ils veulent juste vivre en adéquation. Enfin, ils s'en foutent. Ils veulent même pas une autonomie de territoire. C'est quand même une population de 30 millions d'habitants qui n'a pas de pays à soi. Mmh. Donc, elle est répartie sur la Turquie, l'Irak, l'Iran, un peu en Syrie aussi. D'ailleurs, beaucoup même qui ont combattu
l'État islamique, ouais.
Et donc, du coup, enfin, voilà. Eux, ils n'ont pas du tout de belligérance, d'intention d'indépendance ou quoi que ce soit. Ils veulent juste avoir leur paix. Et voilà, bon, bref. Quoi d'autre ? Oui, donc du coup, ce barrage crée des gros problèmes environnementaux, notamment pour cet aspect culturel et pour les Kurdes. Et aussi, après, pour toutes les populations en aval, qui sont forcément les Irakiens, les Syriens et les Arabes derrière... qui vont se retrouver avec 80% du Tigre et de l'Euphrate, qui vont être diminués. Parce qu'en fait, ce barrage n'est qu'une pièce d'un gros projet de l'État turc de redynamiser économiquement la région en faisant plein de barrages.
On avance. Vous pouvez retrouver les deux exemples là, l'un et l'autre vous venez de citer. On peut retrouver des choses un peu plus documentées, un peu plus complètes sur votre site internet, lesvagabondsdelenergie.com, .net, je sais plus quoi, .org. Voilà, ouais. Pardon. Et on peut aller un peu plus loin, mais c'était important, intéressant en tout cas, de s'arrêter sur deux exemples comme ça, deux gros projets. On parlait justement de prendre le contre-pied des projets gouvernementaux, pardon, et de pas attendre que ça vienne d'en haut. Là, on a des exemples concrets de quand ça vient en haut, d'en haut, ça fait de la casse. Il y a évidemment plein d'autres initiatives plus locales, plus citoyennes, avec des groupes de population plus réduits à la base de ces projets-là. Qu'on ne sait même pas qu'on les a... Pardon ?
Que vous pouvez voir sur notre site internet.
Ouais. Exactement. Ou c'est même pas une question, on les a consultés, est-ce qu'ils sont d'accord ? C'est eux qu'ont mis en place des êtres humains, des vrais, qu'ont mis en place des choses. On est très rapidement pris par le temps. Je voulais qu'on parle de votre actualité qui arrive très rapidement, c'est le 22 septembre. Est-ce qu'avant ça, il y aurait un élément essentiel sur le voyage ? On peut pas, on l'avait dit, résumer deux ans en 20-25 minutes d'émission. Avant de parler des virées alternatives, qui est votre prochain gros rendez-vous le 22 septembre, on en parle dans un instant. Est-ce qu'il y a un truc essentiel peut-être si, moi, en tant que humain curieux, qu'est-ce que vous en retenez de ce voyage-là ? Pas forcément à titre militant, à titre politique, à titre militant associatif, mais peut-être plus humainement, deux ans comme ça, l'un avec l'autre, des fois l'un sans l'autre. Ça n'a pas dû tout le temps être simple, on n'est pas là pour régler les comptes, mais ça génère ça aussi. Qu'est-ce que vous en gardez de cette expérience-là ? Un souvenir, une anecdote, un truc vraiment marquant, quoi ?
Moi, j'invite tous les auditeurs à faire un voyage, mais le trésor qu'il en retiendra, qu'il gagnera... Enfin, je veux dire, c'est tellement difficile à expliquer en deux minutes, je préfère pas répondre, mais voyager.
Je t'ai mis dans le caca.
Tu m'as mis dans la merde.
Clément, un mot peut-être ?
Mais je pense beaucoup d'apprentissage l'un comme l'autre sur des sujets identiques et sur des sujets aussi très variés. Je sais pas, je pense qu'on a fait un bon bout de chemin ensemble et on a beaucoup appris à travailler l'un avec l'autre. On a beaucoup appris l'un de l'autre. Donc ça, c'est une première chose. Et on a appris aussi évidemment beaucoup des autres, des gens qu'on a rencontrés en cours de route. Que ce soit à travers les projets qu'on a étudié ou à travers le voyage, donc simplement des gens qui nous accueillent, des gens qu'on croise dans les transports, ce genre de choses. Donc, un peu comme François, c'est hyper dur de résumer. Mais évidemment, quelque chose de très riche qui apprend beaucoup, qui transforme, je sais pas, on dit tout le temps, le tour du monde, tu vas voir, tu vas être transformé, machin. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir changé, mais d'avoir appris beaucoup de choses, d'avoir évolué, d'avoir...
Le changement dans la continuité.
Ouais, on va dire ça comme ça, c'est ça.
Il y a un côté comme ça, mais voilà, on peut faire un tour du monde, et évidemment que ça doit être enrichissant. Moi, je ne l'ai jamais fait. Hein. Je vous jalouse un peu. J'imagine que les gens qui nous écoutent aussi un petit peu. Mais on peut aussi, voilà, l'essentiel, j'ai la sensation, si on ne peut pas voyager comme ça, par exemple, à l'autre bout du monde, c'est de se rappeler toujours que voilà, c'est au contact des autres qu'on s'enrichit et qu'on s'éduque, entre guillemets, tout au long de la vie, et que c'est pas juste, juste à la fin de sa scolarité, bon, ça y est, je suis un humain fini, ça ne s'arrête pas, François.
Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le voyage en soi est trop souvent confondu avec le tourisme. Et quand on dit voyager, c'est pas aller prendre un billet de train ou d'avion pour aller à Vietnam et passer 3 semaines à faire du scooter. Non, c'est pas ça. C'est aller à la rencontre de l'autre. Et ça peut se faire même
chez
à Évreux, quoi.
Ouais, complètement.
Ça peut se faire dans le 27, ça peut se faire dans le 67. Enfin, je veux dire, les gens sont extraordinaires. Moi, je ne voyage, j'ai plus de voiture là depuis le retour, je ne fais que du stop. Et ben, je voyage. Les gens qui me prennent, c'est une rencontre, c'est une aventure à chaque fois. Et c'est ça que je kiffe à mort. J'ai essayé Blablacar, mais c'est une merde.
Alors, c'est peut-être un peu radical, on a le droit de voyager avec Blablacar, c'est quand même pas si mal, Blablacar.
Merci Clément. Sinon, on va avoir des problèmes encore.
Non, mais par contre, ce qui est important, et justement, je pensais à la même chose, et ça rejoint tout à fait ce que tu viens de dire, c'est à son niveau, à son échelle, en fonction de ses envies, de sortir un petit peu de ses zones de confort. Et c'est ça le voyage, en fait. C'est juste se mettre un tout petit peu en danger par rapport à son standard à soi, qui du coup, il y a des curseurs, chacun a les siens.
On parle pas d'aller tenter de passer une frontière impossible à passer, aller se mettre entre les mains de trafiquants.
Non,
ou
voilà,
autre,
ça hein. C'est quand le curseur est placé très très haut, oui, pourquoi pas. Si vraiment il y a plus que ça qui nous fait triper, ouais. Mais le curseur, il peut être hyper bas, il peut être simplement, je sais pas moi, aller marcher dans la rue et parler à quelqu'un. Enfin, c'est déjà quelque chose qu'on fait pas forcément, et ça peut être à côté de chez soi. Il y a plein de façons de voyager, et le fait de sortir de sa zone de confort, on y trouve toujours quelque chose.
Et je trouve que ça fait une super transition sur justement le festival du 22 septembre, qui est tout à fait sur le voyage engagé. Donc là, on invite une dizaine de projets, je vais pas le nombre exact, de gens qui sont partis voyager avec un esprit d'engagement pour aller étudier la construction écologique, l'agriculture écologique, la production d'énergie. Il n'y a pas que nous, en fait, qui avons fait des études sur l'énergie. Mais il y a, voilà, plein de sujets intéressants, même sur l'entrepreneuriat dans le monde, pour la transition. Enfin, voilà. C'est juste une bonne transition, j'en ai profité.
Eh ben tu fais bien. Donc le 22 septembre, du côté de la Factory, l'île aux Rois, si vous nous écoutez régulièrement, vous savez où c'est sur la commune de Val-de-Reuil, les Riposes même, me semble-t-il, là c'est indiqué Val-de-Reuil. En tout cas, vous mettez le GPS, vous allez trouver, hein, l'île aux Rois. La Factory, le 22 septembre, ça commence dès le
14h.
Voilà, donc avec, vous en avez déjà parlé un petit peu, différentes assos, structures, projets qui vous ressemblent, mais qui ont mené évidemment d'autres études. Voilà, l'idée, on l'a bien compris, c'est de se faire une grande fête du projet, enfin des projets voilà, alternatifs, environnementaux, enfin voilà, ceux qui les étudient, ceux qui les mettent en place, ceux qui les ont expérimentés, qui ont un peu de recul aussi sur ce qui a déjà été fait. J'imagine que c'est dans cet état d'esprit de fête et en même temps d'échange de pratiques, de savoirs, de compétences, de réseaux. Enfin, c'est ce qu'on appelle cultiver son réseau, puis offrir tout ça au public pour qu'ils viennent chercher de l'info, chercher concrètement des réponses à certaines de ces questions ou des exemples de mise en action. Enfin, j'imagine que ça a été fait dans cette idée-là.
Mmh. Là, en fait, on a besoin dans notre quotidien de retrouver un peu de force, militantisme. Tout seul, on ne peut pas porter toutes nos valeurs. Et donc, du coup, c'est intéressant de se retrouver, de créer du lien, de se retrouver avec des amis pour échanger sur une AMAP, sur n'importe quoi comme sujet. Mais voilà, on a besoin de se fédérer. Donc, on propose de se retrouver le 22.
Il y aura... oui, pardon, Clément.
Non, c'était juste pour rebondir un peu sur le concept. Et effectivement, on invite plusieurs projets. Il y a les deux objectifs principaux. C'est effectivement de transmettre, c'est-à-dire que chaque porteur de projet puisse un peu raconter ce qu'il a appris et partager ce qu'il a produit pendant son voyage. Et puis aussi une deuxième facette qui est d'essayer de donner envie et de poser le questionnement du voyage. Pourquoi on voyage? Comment on voyage? Et les différentes façons de voyager. Aujourd'hui, on sait qu'on y est, enfin, remarque une espèce d'injonction presque du voyage et des vacances, c'est-à-dire que c'est presque bizarre de ne pas partir en vacances quand on a un emploi et qu'on est quelqu'un de normal, entre guillemets. Et donc, on peut aussi se poser toutes ces questions-là du voyage, pourquoi on le fait, dans quelles conditions, et quel est son impact sur place, etc. Et quelles sont les différentes façons de découvrir une culture, un peuple, à travers les aspects touristiques, donc toute cette question autour du tourisme de masse et de ses alternatives.
Ça renvoie complètement à... Et voilà, on terminera peut-être là-dessus, mais à ce qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire que le voyage, c'est pas juste un trip qu'on fait pour soi. C'est-à-dire que c'est pas juste la jouissance immédiate de voilà, je prends mon billet d'avion, je vais à l'autre bout du monde et je me fais plaisir. Vous parliez de rencontres, tu parlais concrètement de quand moi je fais du stop, ces 2 ans de voyage vous ont permis énormément de rencontres. Enfin, voilà, le voyage, c'est jamais perso, c'est jamais individuel. Même si on part tout seul, au final, le but du jeu, c'est de partir pour rencontrer l'autre, les autres, et éventuellement même pourquoi pas se rencontrer soi-même. Mais bon, ça, on rentre dans des questions, des considérations philosophiques. Ouais, mais voilà, et quand tu parles d'injonction à aller partir en vacances parce que bah voilà, on a du pognon, parce qu'on a travaillé toute l'année, et c'est normal. Enfin, je veux dire, on est dans une société de consommation où le citoyen lambda a passé toute son année à trimer, et c'est quand même difficilement entendable pour lui de se dire bon bah attention, ok, maintenant c'est tes vacances, comment tu vas voyager? Enfin voilà, il y a aussi,
ouais, effectivement, ouais.
Il faut réussir à faire passer certaines idées, certaines choses, et tout en même temps ne pas brusquer, même si voilà, des fois on aurait peut-être un peu envie de secouer le cocotier, mais c'est pas évident. Et voilà, rappelez que cette jouissance immédiate et permanente que nous offre la société de consommation, c'est même pas ça qui nous rend heureux, quoi. Enfin bon, ça c'est voilà, moi aussi c'est un peu militant quand je dis ça, mais donc on interrogera notamment le 22 septembre à la Factory avec les virées alternatives, une table ronde voilà autour du voyage, pourquoi, comment, enfin voilà, ça va être un des temps forts de la journée. On en profite parce qu'on est vraiment pris par le temps, donc je fais vite hein les gars. C'est également le même jour l'ouverture de saison de la Factory, maison de poésie, donc il y aura aussi des propositions que eux font en matière artistique, et puis présenteront un peu leur le programme de leur saison. Donc si je résume, en début d'après-midi on peut venir écouter, échanger, s'informer autour de différents projets, que ce soit vous les vagabonds de l'énergie, mais il y a écologie, I feel good, voyagez-nous en France, le tour des possibles, W Project, enfin voilà, il y en a tout un tas. Ils viendront se succéder sur scène et discuter, échanger avec vous et avec le public. La table ronde autour des questions éthiques, environnementales, autour du voyage, la Factory donc, qui présente sa saison. Et puis des petits concerts, enfin des grands concerts, des concerts moyens, enfin voilà, de toute taille, pour clôturer la soirée jusqu'à 1h du matin. On vous invite à la Factory. Petite précision, c'est sur entrée libre, c'est ça ? Participative.
Prix libre.
Ouais. Prix libre, pardon. Oui, voilà. Oui, la nuance est importante. Oui, oui, je... Ouais, donc vous donnez ce que vous voulez. À partir de combien ? Il y a un minimum ?
Non,
pas forcément. Ok. C'est très chouette. Et puis. Ouais, ceux qui peuvent, mais oui, quand on veut, on peut, c'est comme ça qu'on dit, non ? On peut évidemment retrouver toutes les infos vous concernant et également sur cette journée-là du 22 sur lesvagabondsdelénergie.org, c'est votre site internet. Merci Clément et François d'être passés par nos micros ce matin. Voilà, on a échangé très longuement et en même temps j'ai l'impression qu'on n'a pas dit assez ou pas grand chose. Enfin, je sais pas, mais voilà, il y avait tellement de portes d'entrée à cette discussion que c'était peut-être parfois un peu confus, mais néanmoins pertinent et intéressant, me semble-t-il, sans nous jeter de fleurs de bon matin comme ça. Très rapidement, j'ai plus le temps vraiment de faire de bons plans. Juste, voilà, bah pour faire le lien avec les invités de ce matin. Lundi, on devrait recevoir Alternativa pour la fête des possibles, avec 4 ou 5 journées temps fort à venir tout au long du mois de septembre. Ça commence le 15 septembre et ça termine le 30, avec notamment une journée autour de la forêt nourricière sur Évreux, à Nétreville. Voilà, ça c'était un des éléments importants, donc on en parlera sans doute plus longuement lundi matin. Et vous rappelez aussi que partout en France, et notamment si vous êtes du côté de Rouen, il y a une marche pour le climat demain. Il me semble que c'est 13h le coup d'envoi, si je dis pas de bêtises. Rencardez-vous sur les réseaux sociaux. Ça fait partie notamment des bons plans que j'aurais voulu aborder ce matin, mais je n'ai pas eu le temps. En tout cas, voilà, marche pour le climat, l'hôtel de ville, départ à 13h à Rouen. Il y en a évidemment une énorme sur Paris. Voilà, l'idée c'est de rappeler à tout le monde que tout cela nous préoccupe. Et voilà. Dernière chose, les programmes sur l'antenne de Principe Actif et d'HDR. Aujourd'hui sur HDR, eh bien, vous avez rendez-vous avec quoi ? Pardon, j'ai pas enclenché ce qu'il nous faut. Est-ce que je vais avoir le temps ? Mais oui, on va le prendre le temps. Aujourd'hui sur HDR, bah, vous avez rendez-vous tout simplement 17h-18h, vous le savez, programme commun en deux antennes, c'est le Blabla Mix, l'Esprit du Village 21h-22h et It's Time 23h, 1h du matin avec l'équipe de Raguse et Jean-Mi. Aujourd'hui vendredi sur Principe Actif, dans quelques instants vous avez rendez-vous avec le Flash RFI Monde que vous retrouverez également à midi. Midi et demi, scène de vie pour la première de l'année, l'équipe de Principe Actif et du Tangram, voilà, vous en avez l'habitude, fusionne pour vous donner le meilleur de la scène locale à midi et demi. 15h, c'est là où les rediff, 17h-18h, le Blabla Mix, on en a parlé. La première, le retour du privé à Babylone, c'est à partir de 18h. Et puis à 20h, vous aurez rendez-vous avec Eldorado. On vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Principe Actif et d'HDR. Merci à Clément et François d'être passés par nos micros de bon matin.
Merci à
les
vous.
Vagabonds de l'énergie. On vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao, ciao.